La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Je m'appelle Michel Viguier, je suis pasteur à la retraite, prédicateur itinérant, enseignant de la parole de Dieu et depuis peu écrivain. Mais avant tout, je suis un chrétien profondément enraciné dans les Écritures, croyant en l'amour incommensurable de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet du salut. Pour cela, je vous invite à lire avec moi le texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. La Bible dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ici, ce texte exprime simplement les étapes de l'expérience du salut. Il y a un autrefois, vous étiez mort. Il y a une intervention dû à l'initiative de Dieu, mais Dieu vous a rendu vivant, et puis le temps présent, maintenant, vous êtes sauvés. Tout d'abord, le texte souligne la nécessité du salut. Paul met en avant trois vérités sinistres, quelque part, concernant tout être humain. La Bible dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés ». Vous étiez mort, c'est-à-dire spirituellement mort, ce qui ultimement signifie séparé de Dieu. Qu'est-ce qui a causé cette mort, cette distance par rapport à Dieu? Nos fautes et nos péchés. Nous avons fait des choses que nous n'aurions pas dû faire et nous n'avons pas fait tout ce que nous aurions dû faire. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Mais la mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu pour toujours dans l'éternité. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Non seulement on est mort, mais la Bible dit qu'on est esclave. Vous étiez mort par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans la fille de la rébellion. On était morts, mais aussi esclaves. Nous étions comme des cadavres esclaves. Esclaves sous l'influence du monde, du diable et de nous-mêmes. Tout d'abord du monde, et la Bible dit, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Paul ici sollicite l'image de la marche qui exprime un style de vie. Le monde ici, ce ne sont pas tous les gens qui nous entourent. C'est le grand système qui s'oppose à Dieu. En fait, un commentateur a dit que les trois éléments les plus caractéristiques du système du monde sont l'humanisme, le matérialisme et les relations sexuelles illicites. L'humanisme place l'homme par-dessus tout, c'est l'homme qui est la mesure de toute chose, tandis que la théologie, c'est Dieu qui est la mesure de toute chose, Alors quand l'homme est la mesure de toutes choses, chacun est son propre maître, sa propre norme de ce qui est bien, sa propre source d'autorité, en un mot, son propre Dieu. Le matérialisme met les choses matérielles par-dessus tout, surtout l'argent, parce que l'argent permet d'acquérir tout le reste. Et puis il y a la perversion sexuelle qui domine notre société occidentale actuellement, comme aucune autre société depuis les périodes de décadence de la Grèce et de la Rome antique. Non seulement on est mort, on est esclave, mais on est sous l'influence du diable. Et vous marchiez autrefois, nous dit le texte, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui, le diable, Satan, est le chef des puissances spirituelles mauvaises qui sont mentionnées ailleurs dans le texte d'Éphésiens. Nous étions esclaves de ces mensonges. Jésus-Christ a dit que le diable est le père du mensonge. Non seulement nous étions sous l'influence du monde, du diable, mais aussi de nous-mêmes. Le moi, notre chair, est aussi notre ennemi. La chair, c'est l'être humain livré à lui-même, l'homme sans Dieu. La chair englobe tous nos mauvais désirs égoïstes. C'est pour ça que la Bible dit, nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. La source du mal est dans les convoitises, c'est-à-dire les mauvais désirs du cœur charnel, la convoitise des yeux de la chair. Ces désirs nourris dans le cœur deviennent des volontés, à la fois volontés de la chair et de nos pensées. Alors non seulement l'homme est esclave du diable et du péché, mais il est par conséquent condamné. Aussi étions-nous, dit la Bible, par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Non seulement nous sommes de nature de rebelles vis-à-vis de Dieu, mais aussi on attire la colère de Dieu sur nous. Par la nature corrompue dont nous avons hérité, par nature, et par nos propres fautes et nos propres péchés, nous étions ainsi destinés à la colère de Dieu. Et nous étions, dit la Bible, par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, voilà l'origine du salut. Les deux premiers mots du verset 4 ont pour but de nous étonner. Mais Dieu, c'est l'intervention divine de Dieu face à la condition catastrophique de l'humanité. Dans les versets 4 et 5, Paul fait de grands efforts pour nous convaincre que ce que Dieu a fait n'était pas normal. C'est surnaturel. Nous devrions concevoir le salut de Dieu comme quelque chose d'inattendu. Car l'origine du salut de l'homme, c'est Dieu et c'est l'amour de Dieu. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 4 et versets 9 à 10, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils, unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Oui, l'initiative vient de Dieu, l'initiative du salut pour l'homme vient seulement de Dieu et seulement Dieu, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu est intervenu à cause de son amour. La miséricorde de Dieu est riche, surabondante, sans mesure, illimitée. Et la difficulté de la réconciliation ne vient pas du Seigneur. Les deux mots, mais Dieu, nous montre d'où est venue l'initiative de pouvoir, la puissance qui sauve, le grand désir de Dieu est d'être réconcilié avec les créatures qu'il a faites à son image et pour sa gloire. Et la rébellion et le refus viennent de l'homme. Parce que Dieu a été riche en miséricorde envers nous, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il a pourvu un moyen pour que nous puissions revenir à lui. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. L'origine du salut de l'homme vient de la vie communiquée par Christ ressuscité. Dieu parle de l'amour de Dieu, Paul parle de l'amour de Dieu, mais en soulignant un aspect précis de cet amour. Le salut apporte la vie spirituelle en celui qui est mort spirituellement, et nous sommes tous morts sans l'intervention de Dieu. Dieu a aimé des hommes et des femmes qui étaient morts par leur faute, qui s'étaient rebellés contre lui. Voilà que son amour a de particulier, il a aimé des cadavres spirituels. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, verset 23, dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » On est mort par nature, et la preuve que l'on pêche, c'est qu'un jour, tout le monde meurt. Mais la Bible dit « Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Et même en acte 4, verset 12, l'écrivain des actes des apôtres, Luc dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a de sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le salut a un but éternel. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible ajoute « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » En fait, le but du salut, c'est de nous faire asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Cela signifie être béni sur terre d'abord et éternellement. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce que Paul veut nous communiquer, c'est qu'une fois sauvés par grâce, nous partageons la destinée glorieuse de Christ. Ce qui lui arrive, nous arrive. Son histoire devient notre histoire. S'il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. S'il monte au ciel, nous y montons avec lui. Nous sommes unis à lui. Nous sommes au bénéfice de sa vie, de sa résurrection et de sa victoire, puisque nous siégeons exactement avec lui dans le monde céleste. Et ce sont les vainqueurs qui siègent dans le monde céleste au-dessus des puissances vaincues, puisqu'il nous a assis dans les lieux célestes selon Éphésiens chapitre 1, verset 3. Quelle grâce ! C'est ce que souligne ce verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La grâce vient vraiment de la bonté et de l'amour de Dieu. Le texte continue, il nous montre finalement le moyen du salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous connaissons bien ces versets. Paul exprime de toutes les manières possibles que c'est la grâce de Dieu seule qui nous sauve. Le salut ne s'obtient pas par nos propres efforts. La part de Dieu dans le salut de l'homme, c'est sa grâce. Et Jean, au chapitre 1, versets 4 et 17 de son évangile, le souligne en disant « Et la parole a été faite chair » en parlant de Jésus-Christ, le Logos, qui était présenté au verset 1, « Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le don de Jésus-Christ. Et ce don est transmis maintenant par sa grâce qui nous est communiquée pour être gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Romains 6, 23 souligne « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jésus-Christ à la croix a dit « Tout est accompli, tout est payé, c'est gratuit pour celui qui croit, et c'est la grâce de Dieu qui s'étend à tous les hommes pour ceux qui se repentent de leurs péchés et acceptent Jésus-Christ. » Car pour l'accepter, il faut avoir la foi. La part de l'homme, c'est la foi dans la révélation de Dieu. Dieu attire tous les hommes à lui. Et notre responsabilité en tant qu'homme, c'est de croire. Et la Bible dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même la foi est un don de Dieu. Et si vous avez du mal à croire, priez Dieu qui vous aide à croire. Mais nous avons une part de foi à avoir en Dieu, comme nous avons foi sur beaucoup de choses. Mais une fois qu'on a la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, de l'évangile, du don gratuit de la vie éternelle, à ce moment-là, Dieu nous demande d'avoir la foi en lui pour croire et recevoir Jésus-Christ. Car le salut vient par la foi et la grâce, et non pas par les œuvres. La Bible dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Or, si c'est par grâce, nous dit Romains 11, ce n'est plus par les œuvres seulement, autrement la grâce n'est plus une grâce, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Oui, le salut n'est point des œuvres. C'est-à-dire que ce n'est pas par quelque chose qu'on puisse gagner par des œuvres supposées méritoires. Pour citer quelques exemples, il ne peut pas être mérité, par exemple, par le baptême, par la confirmation, être membre d'une église, assister à une église, la fidélité donc à l'église, ou participer à la table du Seigneur, la scène, s'efforcer d'observer les 10 commandements, exercer la charité, être serviable envers ses voisins, vivre moralement et respectablement. Alors tout cela, évidemment, n'est pas mauvais en soi, mais cela n'est pas suffisant pour plaire à Dieu. Puisque nous sommes entachés du péché, il fallait que le péché soit effacé, et ce n'est pas par ses œuvres qu'on est sauvé, ou par la foi et les œuvres, mais par la foi seule, parce que seulement confiance dans la grâce de Jésus et la foi en Jésus-Christ seul, qui est crucifié pour couvrir et pardonner nos péchés. À partir du moment où l'on ajoute des œuvres, quelles qu'elles soient, quelle qu'en soit l'étendue, afin d'obtenir la vie éternelle, le salut n'est plus par la grâce. Or, la Bible dit que c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la grâce. Une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles les œuvres sont radicalement exclues dans le processus du salut, c'est la cause, c'est d'éliminer la vantardise, l'orgueil qu'aurait l'homme de vouloir par ses efforts avoir gagné le ciel. On ne gagne pas le ciel, on le reçoit comme un cadeau. Et la Bible ajoute quelque chose d'extraordinaire, c'est que le résultat de ce salut, c'est que nous devenons une nouvelle création. Même dans le terme grec ici, un nouveau poème. Dieu prend plaisir à créer un nouvel ouvrage, car nous sommes son ouvrage, un nouvel ouvrage de nous. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le but de cette nouvelle création est exprimé par la phrase « pour de bonnes œuvres ». Alors qu'il est vrai que nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres, il est aussi vrai que nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas la racine, mais le fruit. Nous ne les produisons pas afin d'être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. C'est ce que Jean explique dans la parabole de la vigne, du serment et du cep. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors pour cela, être une nouvelle création, c'est d'être en Christ, c'est d'être sauvé. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La première création de Dieu a été gâchée par le péché au travers d'Adam et Ève. Mais en Jésus-Christ, Dieu procède maintenant à une nouvelle création. Et chacun d'entre nous a une place dans ce chef-d'œuvre magnifique de Dieu. Que sommes-nous devenus? Par le salut des participants à une nouvelle création. Mais attention, Dieu nous a recréés dans un but précis. Pratiquer des bonnes œuvres pour le glorifier. Et ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous y marchons dedans par la foi, et c'est ce qui explique notamment toute la marche de la vie chrétienne dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au chapitre 5 et chapitre 6. Je vous invite à le lire. Nous avons été recréés pour être dans cette nouvelle marche qui est l'opposé de notre ancienne marche, décrite au verset 2, et nous avons complètement changé de direction. Nous ne sommes pas seuls dans cette nouvelle marche, mais les bonnes œuvres que nous accomplissions, même les pas d'obéissance que nous faisons, c'est Dieu qui les a préparés d'avance, dans l'éternité même passée. C'est une autre manière de dire que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant, comme il est écrit en Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui donne le désir et la capacité de marcher dans une direction diamétralement opposée à notre ancien parcours de vie. Y a-t-il eu un « mais Dieu » dans votre vie, un autrefois et un maintenant? Puis-je vous parler franchement et vous poser cette question directement? Êtes-vous sauvé? Avez-vous l'assurance du pardon de vos péchés et de la vie éternelle? Si ce n'est pas le cas, je vous invite alors à faire cette prière toute simple avec moi et vous adresser au Seigneur ainsi. « Seigneur, ton salut m'émerveille et m'impressionne. Tu ne me devais absolument rien. J'étais mort esclave et condamné. Mon histoire aurait pu très mal se terminer. Mais il y a ton amour, qui est tout sauf normal. C'est la grande surprise de l'histoire, et c'est ce que je veux recevoir maintenant. Merci d'avoir pris ma condamnation à la croix et d'être ressuscité. Merci pour ta grâce et ton pardon. Je crois en ton amour éternel et je veux être sauvé. Sauve-moi, Seigneur. Donne-moi la vie éternelle, car je crois en toi. »